Jacob a ici 147 ans. C'est le jour de sa mort. Il est sur son lit de mort. Et comme ceux qui travaillent dans les soins palliatifs savent que c'est souvent le cas, il semble qu'il vit un regain d'énergie juste avant de partir. Et donc il s'assoit sur son lit, il s'appuie sur son bâton, d'après un verset du Nouveau Testament. Et dans un moment formel, solennel, avec tous ses fils autour de lui, Jacob leur transmet ce que ce texte appelle à 15 reprises la bénédiction. Et ces bénédictions, comme vous avez vu, c'est en quelque sorte des prophéties qui portent sur l'avenir et le devenir de ses fils, ses tribus d'Israël. Le cinéaste Woody Allen dit « L'avenir m'intéresse car c'est là où j'ai l'intention de passer mes prochaines années ». J'espère que vous avez la même intention de passer vos prochaines années dans les avenirs. En tout cas, ce texte devait beaucoup intéresser les premiers lecteurs de ce livre de la Genèse. Les premiers lecteurs, ce sont les enfants d'Israël, maintenant devenus les tribus d'Israël. Les 12 tribus, après l'exode de l'Égypte, après l'errance dans le désert, ils sont sur le point d'entrer dans le pays promis. Et par ce texte, ils peuvent savoir qu'en effet, Dieu a des projets, des bons projets pour eux, pas des projets de malheur, mais des projets pour leur donner un avenir et une espérance. Ils peuvent savoir que leurs destinées sont dans les mains de Dieu en méditant ces textes, la manière que Dieu va les bénir avec ce pays promis. Et c'est vrai, beaucoup de choses que Jacob dit ici vont se réaliser dans l'allocation, dans la repartition de la terre promise, les différentes régions et comment chaque tribu va recevoir une partie de ce territoire. Ça va être décidé par tirage au sort. Et même nous en France, on est très conscient de ça, que chaque région, les habitants de chaque région peuvent avoir leur propre personnalité, leurs propres atouts, parfois leurs propres défauts. Et on aime dire, c'est peut-être à cause du climat ou de l'économie, les Parisiens sont comme tels parce que voilà, ils vivent à Paris, ou les Marseillais sont comme ça, les Sudistes sont comme ça, ils sont plutôt détendus. Pas toujours à l'heure, à tout, mais voilà, ils sont détendus. Donc, on dit ça, chaque région a un peu ses traits de caractère, et c'est un peu ce qu'on trouve ici. Mais ça va plus loin. C'est du langage poétique en hébreu, donc c'est assez difficile parfois à comprendre. Mais en gros, c'est quand même des bénédictions. C'est pas juste des prophéties, c'est des bénédictions. Et quelque part, chacun reçoit bénédiction, même si certains fils, c'est pas très glorieux ce que Jacob leur dit. Mais il y a quand même des idées qui reviennent partout, si vous pensez à ce que ces fils vont un jour entrer dans ce pays promis. Et quelque part, Jacob annonce la sécurité et la productivité pour ce peuple. Ces idées de fertilité et de multiplication et d'abondance, on les trouve à plusieurs reprises. La sécurité et la productivité. Et deux exemples, c'est Gad et Aser, côte à côte, je les ai pris versets 19 et 20. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Gad va recevoir un territoire à l'autre côté du Jourdain et il va, lui, être plus exposé à des attaques venant des bandes ennemies. Mais la bénédiction, c'est qu'il va pouvoir se défendre et rester en sécurité dans ce pays. Et puis juste après, il y a par exemple Aser. Aser produit une nourriture excellente. Aser a eu une partie du pays promis qui était sur la côte, une terre très fertile, semble-t-il. Et donc, dans cette terre fertile, il va pouvoir pousser des mets excellents qui va fournir les rois. Et on sait que dans un pays, il y a certaines régions qui sont très fertiles. Donc, vous voyez deux exemples, et c'est un peu ce thème qui revient un peu partout, c'est la sécurité et la productivité. Si vous regardez bien, c'est exactement les deux sujets de toutes les campagnes présidentielles, de tous les programmes, même encore qu'on nous parle. On nous parle de ces deux choses, la sécurité et la productivité, c'est-à-dire l'économie, l'anti-chômage. Donc pour eux, c'était la bénédiction, tout comme pour nous. C'est la bénédiction, cette sécurité et cette abondance, cette vie qui fleurit. Et voilà ce que Jacob annonce, prononce sur ses fils. Mais beaucoup des commentaires vous diront que la vision de Jacob semble porter plus loin que simplement l'arrivée en terre promise. Parce que chapitre 41, verset 49, verset 1, commence avec cette phrase, « Rassemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » La suite des temps, c'est une expression biblique qui est une phrase un peu ouverte. La suite des temps, ça peut être un avenir proche, mais ça peut aussi parler d'un avenir lointain. Il y a quelques indices, quelques phrases, plusieurs choses que Jacob dit qui semblent aller bien au-delà de simplement l'arrivée en Canaan. Et c'est là où ça devient intéressant pour nous. Nous qui, comme Woody Allen, nous intéressons à notre avenir parce que c'est là où on va passer notre temps. Et vous savez, la vision séculière, la vision athée, est obligée à reconnaître que l'avenir, la destinée de l'être humain, de l'humanité, n'est pas très heureuse. D'après la vision séculière, athée, matérialiste, la race humaine est appelée à s'éteindre lorsqu'on épuise toutes nos ressources, ou lorsque le soleil explose, ou lorsque on est écrasé par une race surhumaine. Alors, vous pouvez légèrement ralentir cette destinée en utilisant un peu plus d'ampoules LED, ou bien en mangeant un peu plus bio, ou en évitant les sacs plastiques. Mais si on est honnête et si on écoute les scientifiques, la destinée finale, c'est quand même le vide et le néant et la mort de tout. Ça, c'est la destinée de la race humaine, d'après la science. Et la question que je me pose, que je vous pose ce matin, est-ce que c'est à ça que le cœur humain aspire vraiment? Cet néant, vide, extinction, mort de tout? Ou est-ce que le cœur humain est plutôt attiré par cette vision de l'avenir de la Bible, de Jacob, d'une productivité, d'une vie qui fleurit, d'une abondance, d'une multiplication, des relations humaines qui aussi fleurissent. Quelqu'un indique un poète, c'est quelqu'un qui se souvient de l'avenir. Et dans les meilleures poésies, les meilleures chansons, quelque part on se souvient de l'avenir auquel le cœur humain aspire. Mais cet avenir, en général, c'est plutôt l'avenir qu'on trouve dans la Bible que l'avenir d'après la science moderne, où il n'y a plutôt rien. Et c'est ça la bénédiction que Jacob veut transmettre à sa fils. Et j'aimerais explorer un peu ce thème de la bénédiction. On va voir cette facette où des bénédictions à venir. Cet avenir heureux est lié à cette chose que le livre de la Genèse appelle la bénédiction, qui est une pensée très importante dans tout le livre. Et pour mieux comprendre la bénédiction dans le livre de la Genèse, il faut la voir comme un bâton de relais. Ensuite, il faut savoir qu'elle vient par un bâton de souverain. Et on y accède appuyé sur un bâton de pèlerin. Alors, peut-être que je vous ai perdu avec ces bâtons, mais je vais les expliquer. Et je pense qu'ils sont des symboles, des objets qu'on trouve dans notre texte et qui peuvent nous aider à comprendre et à imiter la foi de Jacob, qui a une espérance dans un avenir heureux. Tout d'abord, la notion de la bénédiction dans ce livre de la Genèse et toute la Bible comme un bâton de relais. J'aimerais vous convaincre que c'est un moment très important où Jacob va transmettre la bénédiction à ses fils. Et c'est ce moment clé, comme dans une course relais, où il y a le passage de témoins. Il y a le bâton de relais qui passe d'une main à l'autre. C'est ce que Jacob est conscient de vivre. Et il rassemble ses fils autour de lui. Et il va leur transmettre ce bâton, ce témoin. Pourquoi je le dis comme ça? Eh bien, cette bénédiction de Genèse, ce n'est pas juste un mot vague. Ce n'est pas juste, comme nous on dit, à tes souhaits, après quelqu'un éternue. C'est la bénédiction en Genèse est bien plus que ça. C'est un fil conducteur de tout le livre. Et si on revient au début de Genèse, de la création, on découvre que Dieu a béni l'homme déjà en le créant, en lui donnant la vie. C'est la bénédiction de la vie. Et puis Dieu a béni l'homme en le mettant dans un monde où il pouvait s'épanouir. Dieu bénit l'homme en le créant pour être en relation avec Dieu, avec lui-même. Et puis il lui donne ce monde merveilleux, la nature, les amitiés, les relations humaines, la possibilité d'aimer et d'être aimé. Tout ça, c'est la bénédiction de la vie. Et puis il a béni l'homme en lui donnant la possibilité de se reproduire, de multiplier. C'est ce que dit chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit, il bénit les premiers Adam et Ève, il bénit les premiers, le premier couple. Il les bénit en disant « Soyez fécondes et multipliez ». Dieu les bénit en disant « Soyez fécondes et multipliez ». Donc il y avait cette bénédiction de pouvoir être fécond et multiplié, non seulement par les enfants, une progéniture, mais aussi par toutes sortes de projets créatifs, l'art, la culture, le travail, l'outillage. Le jardin d'Éden était censé être un lieu de sécurité et de productivité où la vie fleurissait dans tous les sens, les relations humaines, la production, la joie de créer, tout ça, c'était une bénédiction de Dieu pour l'être humain. Mais puis nous avons appris, nous avons découvert ce qu'est le contraire de la bénédiction. C'est quoi le contraire de la bénédiction? C'est la malédiction, c'est quand le mal entre dans le monde, et c'est ce que a raconté aussi Genèse, les origines du mal. Et on a découvert que l'état béni d'origine, il y a des choses qui se sont introduites, notamment Satan et le mal et la rébellion de l'homme, des choses qui sont venues saccager, saboter, entraver cet état de félicité, de productivité, de fertilité, de bénédiction. Et c'est le constat que nous faisons encore aujourd'hui, le monde n'est plus accueillant. Il est même hostile. Il y a des ronces, des épines, il y a des déluges, il y a des famines, il y a des exils. On a vu tout ça dans le livre de la Genèse. Les relations humaines ne sont plus productives et fraternelles, mais souvent égoïstes et vantardes, comme on a vu à Babel. Ou bien elles sont tordues et perverties, comme on a vu à Sodome et Gomorre. Ou bien elles sont carrément meurtrières, comme on a vu entre Cain et Abel. Ou bien même les frères de Joseph envers leur frère Joseph. C'est plus la bénédiction. Mais dans ce livre de la Genèse qui lance tout le récit biblique, nous découvrons aussi les origines du plan de Dieu pour ramener la bénédiction, pour stopper la malédiction, pour nous délivrer du mal. Et qu'est-ce que Dieu fait pour ça, ce plan pour bénir, pour ramener la bénédiction? Eh bien pour ça, Dieu choisit un homme qui va démarrer une famille, et cette famille devient le dépositaire, si vous voulez, de la promesse de Dieu, de ce qu'un jour, il va défaire la malédiction. Cette famille va porter la semence du salut qui va un jour jaillir et ramener la vie et l'abondance. Et cette promesse, cette bénédiction qu'un jour la vie allait triompher sur la mort, qu'un jour Satan sera écrasé, un jour le fleurissement allait triompher sur la famine, un jour l'amour du prochain va triompher sur la haine, et bien cette promesse était comme un bâton de relais que cette famille se voyait confier. Et ils étaient conscients que c'était très important de le passer à la génération suivante. Et c'est pour ça qu'Abraham est très soucieux de ce que Isaac puisse épouser, pas une fille païenne du pays, mais une fille de chez lui, pour que voilà, cette semence, cette promesse, cet héritage est préservé. Et c'est pour ça qu'Isaac, il y avait ce moment très important aussi, lui va transmettre la bénédiction, il pense vouloir le donner à son aîné Ésaü, mais c'est Jacob qui la reçoit. Mais une fois donnée, cette bénédiction est tellement importante et tellement forte, et le cadre est formel, qu'une fois donné, ce n'est pas comme qu'il peut échanger. Le témoin est passé à Jacob, presque à l'insu d'Isaac, mais c'est Dieu qui conduisait. Je ne sais pas si c'est la meilleure illustration, mais vous savez, la recette secrète de Coca-Cola est précieusement gardée de génération en génération. Alors, je ne dis pas que Coca-Cola est la bénédiction suprême pour le monde entier. Mes enfants, peut-être, diraient ça, mais on essaie de les éduquer mieux. Que la bénédiction suprême du monde entier, ce n'est pas le Coca-Cola. Mais c'est un peu comme ça, cette famille détenait, pas un secret, mais détenait une promesse. Ils détenaient une semence, une postérité qui va aller aboutir sur la bénédiction suprême. Et c'est pourquoi que les séances où un des patriarches arrive près de sa mort, il sait que c'est tellement important de passer, de transmettre ce témoin, transmettre le bâton de relais qui est la promesse, qui est la bénédiction, que Dieu va réparer la malédiction et ramener la fertilité, l'abondance dans tous les sens. Alors voilà ce que Jacob fait pour ses fils, il transmet cette bénédiction. Et puis on pourrait penser que c'est l'arrivée dans le pays promis, l'arrivée en Canaan 400 ans plus tard, un peu plus, ils vont être en Égypte, ils vont multiplier, c'est déjà une partie de la bénédiction, ils vont multiplier, mais dans un cadre opprimé. C'est pas la vraie liberté, c'est pas la vraie fertilité, c'est pas la vraie multiplication. Et Dieu va les sortir de là. Donc après des années d'esclavage et après des années d'errance dans le désert, ils arrivent en Canaan. Et on pourrait dire, oui, peut-être c'est ça l'aboutissement de cette bénédiction. Parce que c'est vrai que la terre promise, le pays promis, donnait un aperçu en quelque sorte de la sécurité, le repos, la productivité qu'on n'avait pas eu depuis l'exil d'Éden. Mais en lisant le reste de l'Ancien Testament, vous allez vite vous apercevoir que le salut et la bénédiction, c'est pas un pays géographique. Parce qu'ils sont arrivés dans ce pays géographique, mais il y avait toujours le cœur mauvais qui était maintenant à l'intérieur du pays. Et la relation avec Dieu se passait pas toujours bien. Et les relations avec les hommes se passaient pas toujours bien. Même si ça pousse, même si la terre était fertile, le cœur n'était pas, il n'y avait pas toujours cette vie, cette bénédiction. Donc, il va falloir regarder plus loin que ça. Et pendant tout l'Ancien Testament, il y a une génération fidèle, les unes après les autres, qui se passe ce témoin, ce bâton de relais de la bénédiction qu'un jour Dieu va délivrer. Parfois, on a l'impression que le bâton est perdu. Parfois, on a l'impression que l'équipe est nulle. Parfois, on a l'impression qu'ils ont raté la transmission. Mais Dieu ne les a pas oubliés. Puis le bâton, la bénédiction, la promesse de la bénédiction réapparaît dans une famille ou un homme fidèle. Et puis, l'histoire de l'Ancien Testament continue jusqu'à ce que un jour va naître un personnage important. Et c'est là où il faut maintenant voir que la bénédiction en Genèse, c'est pas un bâton de souverain. Dans notre texte des bénédictions que Jacob prononce sur ses fils, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est la manière que les trois aînés sont un peu écartés. C'est ni Ruben, ni Siméon, ni Lévi qui reçoivent la prééminence. Et c'est plutôt Judas. Et dans les bénédictions prononcées, il y a une dominance claire qui va vers Judas et puis plus tard Joseph aussi. Et quand on regarde ce que Jacob dit de Judas à partir du verset 8, c'est grandiose et c'est impressionnant. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, tu seras un lion. Et puis surtout, verset 10, le sceptre ne s'éloignant pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le règne, à qui appartient le sceptre. Alors, c'est quoi ce langage? Bien, vous l'avez compris, je pense, le sceptre et le bâton souverain évoquent un roi. Et c'est vrai que Judas est devenu la tribu royale, où vont naître des rois. Et donc, encore plus tard, une fois qu'ils sont arrivés dans la terre promise, mais ça se passe toujours pas très bien, même après ça, il y a quand même un bon roi comme David et son fils Salomon. Et avec David et Salomon, on peut dire qu'Israël a vécu un peu les années glorieuses de l'abondance, de la productivité, de la sécurité, de la bénédiction de Dieu. Mais ce texte encore pousse à regarder plus loin parce qu'il dit tous les peuples vont lui obéir, tous les peuples obéissent à ce roi qui descend de Juda. Et on ne peut même pas dire ça de David et de Salomon. Et puis ce qu'on dit est intéressant pour décrire ce roi qui descend de Juda, en tout cas de cette tribu, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Verset 12, il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Alors ça, c'est quoi? Bon, c'est poétique, mais comme dans beaucoup de cultures, et la nôtre aussi, le vin est symbole de fête et de célébration et de réjouissance et de bénédiction. Et donc ces versets, de manière poétique, décrivent une ambiance, décrivent une société où grâce à ce roi, il y a tellement de vin qu'on peut attacher son âne à sa vigne. Ce qui normalement, on ne le fait pas. Hein. Si vous attachez votre âne à un vigne sur un champ à Fronton, à Bordeaux, le propriétaire de la vigne va pas être content. Normalement, on ne laisse pas son lapin jouer dans un potager de carottes, à moins que ça pousse tellement bien et qu'il y a tellement de carottes qu'on laisse courir les lapins librement. En fait, ce que ça décrit, c'est tout le contraire de la malédiction des ronces et des épines, et de la sueur, et du travail, et de la stérilité, et le deuil, et la tristesse. Ça décrit plutôt l'abondance, le jaillissement de la vie, la multiplication, la fin de la malédiction par cette image du vin. Bien sûr, je rappelle, c'est poétique. Et pour vous convaincre de ça, une petite anecdote, je suis rentré chez mes parents une fois aux États-Unis. C'était lors d'un mariage de ma sœur. Alors j'ai mis mes habits, c'était moi qui ai participé au mariage aussi, donc j'ai mis un costume, une belle chemise blanche. Et j'ai aussi, comme cadeau, j'ai pris une bouteille de vin rouge qui s'est cassée dans le voyage. Alors j'ai lavé mes vêtements dans le vin. Moyen comme résultat. Conseille pas. Heureusement, ma mère sait faire des merveilles dans sa buanderie et ma chemise a connu un avenir et de l'espérance aussi. Mais c'est poétique. Pareil, il a des yeux rouges de vin. Littéralement, ça fait penser à un ivrogne. Mais symboliquement, c'est l'abondance et la joie, c'est le bonheur qui déborde de cette tribu, qui déborde de la présence de ce roi dans la société. Et vous savez quoi? Jésus, il est ce descendant de Judas, on l'a chanté, il est ce lion de Judas. Et il est arrivé sur scène, il est arrivé en Israël, il a revendiqué ce titre de roi, le roi d'Israël, le descendant de David, de Judas. Et puis, son premier miracle, sa carte de visite dans ce monde, pour commencer son ministère, c'était de fournir une abondance de vin lors des noces, lors d'une fête. Une fête qui, qui avait perdu la vitalité et la vie. Et il a ramené la fête en offrant ce miracle de l'eau transformée en vin. Et c'était pour donner un signe fort dès le début de son ministère que c'est lui le roi, lion, le roi, le lion de Juda. C'est lui la bénédiction promise qui défait la malédiction. C'est vrai que plus tard, on l'a couronné. On l'a couronné d'épines. Pour rappeler les ronces et les épines, on l'a couronné d'épines. Mais c'est parce que sur la croix, il a pris sur lui la malédiction. Il a pris sur lui nos péchés, ce qui crée la malédiction et le mal dans ce monde. Il a pris sur lui-même. Il a connu la mort, il a goûté la mort pour défaire la mort et pour remplacer avec la vie qui jaillit. Et par la résurrection, c'est ce qui s'est fait. Il a rompu la malédiction qui planait sur notre monde et notre humanité. Et il peut offrir un avenir béni à son peuple. Il peut avenir la vie abondante, c'est ce qu'il a promis. Je suis venu afin qu'elle ait la vie, et la vie abondante, dit Jésus, le bon berger. Et on a cette promesse dans la Bible qu'un jour, il y aura les nouveaux cieux et une nouvelle terre où on va retrouver enfin cette ambiance d'une sécurité totale, une productivité parfaite, où son peuple vit en harmonie parfaite avec Dieu et avec les uns les autres. Alors c'est vrai que déjà Jésus, il a accompli une bonne partie de ça. Il a pris le sceptre, notamment par sa résurrection. Il est déjà mort et ressuscité, on peut espérer, et on découvre que c'est ça la bénédiction auquel pointait Genèse tout ce temps, c'est lui. Mais il reste des bénédictions à venir, parce que nous vivons encore, un peu comme Jacob, dans un temps de voyage et de pèlerinage. Et encore dans ces moments, Jacob va manifester cette foi de pèlerin, appuyé sur un bâton du pèlerin. C'est le troisième bâton pour nous aider à comprendre la démarche de Jacob et sa foi et dans cette bénédiction à venir. Vous ne l'avez peut-être pas vu, ce bâton-là, dans notre texte, mais en fait, d'après le Nouveau Testament, toute cette scène se déroule avec Jacob appuyé sur son bâton. C'est ce que dit Hébreux 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Alors, une explication, c'est que dans le Nouveau Testament, souvent on s'appuie sur la Septante, cette traduction grecque, et le mot lit et le mot bâton sont très similaires, et d'après les traductions, certaines vont vers lit. Il est dit que Jacob se prosterna sur le chevet de son lit, chapitre 47, verset 31, et puis verset 48, et Israël rassemblait ses forces et s'assit sur son lit. Certainement, les deux étaient vrais. Il est assis sur son lit et s'appuie sur son bâton. Et c'est le fameux prédicateur Charles Spurgeon qui a tout un message sur ce bâton-là, et ce qu'il évoque. Et il est assez convaincant dans ce qu'il dit. Il dit, c'est, en fait, pour Jacob, c'est ce bâton de pèlerin qu'il avait avec lui toute sa vie. Parce que Jacob lui-même évoque ce bâton plutôt avec son frère. Il a dit, un jour, j'ai dû quitter ma maison, j'avais rien, j'avais juste mon bâton, et j'ai traversé le Jourdain. Et puis, plus tard, Dieu m'a ramené, il m'a complètement béni. Mais c'est vrai que la vie de Jacob était une vie d'errance, un peu d'exil. Il était en fuite beaucoup. Et même ici, il se trouve en Égypte, il n'est pas vraiment chez lui. Il va dire à Pharaon, ce qu'on a vu la semaine dernière, il a dit à Pharaon, les années de ma vie étaient des années d'errance, de pèlerinage. Et ici, à la fin de sa vie, quelque part, il demande à sa fils, apporte-moi mon bâton. On a peut-être tous un objet marquant qui nous rappelle peut-être des souvenirs. Et là, il est appuyé sur son bâton et c'est à ce moment qui transmet l'espérance à ses enfants. Je me dis, c'est un peu comme Jean Valjean de chez Victor Hugo qui meurt avec les chandeliers de l'évêque pour se rappeler qu'il avait été un gracié, un pardonneux toute sa vie. Il s'était toujours promené avec ses chandeliers comme souvenir. Un peu comme Jacob ici, qui a encore le bâton, son bâton de pèlerin. Et quelque part, il dit, je meurs avec ce bâton pour me rappeler que j'ai toujours été un pèlerin. Et j'ai fixé ma foi sur des promesses à venir, même pas un pays terrestre physique, mais une patrie céleste. Vous voyez, Jacob, à la fin de sa vie, et c'est ça la clé pour nous aussi, Jacob ne s'appuie pas sur ses richesses. Il ne s'appuie pas sur la puissance de l'Égypte. Même il est bien placé, son fils est premier ministre. Vous rappelez, les pharaons, quand ils mouraient, ils prenaient toutes leurs richesses, tout leur or, ils le mettaient sur eux. Ils se faisaient enterrer avec toutes les richesses, comme quoi c'est ça ma protection, c'est ça ma gloire. Est-ce que Jacob fait ça? Il rassemble toutes ses richesses autour de lui, il s'agrippe à ses richesses. Il dit, non, ça il lâche. C'est ce bâton de pèlerin. Il montre par là qu'il ne s'appuie pas sur les valeurs et les richesses de ce monde pour avoir la bénédiction. Ce n'est pas les richesses et les valeurs de ce monde qui apportent la vraie bénédiction. Voilà ce que Jacob montre. Vous savez, le monde dit que pour avoir la prospérité et la sécurité et la réussite et l'abondance, c'est-à-dire la bénédiction, il faut être le premier, il faut être le plus fort, il faut être le plus beau, il faut être le plus doué. À l'époque, il fallait être l'aîné. Comme ça qu'on avait la bénédiction, c'était comme ça qu'on était quelqu'un de bien. Mais Jacob a appris que Dieu n'est pas comme ça. Dieu peut faire du bien, il peut prononcer du bien, il peut dire toi tu es quelqu'un de bien, et ça il le dit parfois aux moins méritants. Il le dit aux pécheurs, il le dit aux faibles, c'est ce que Jacob a compris. Et ce qu'il veut léguer à ses enfants aussi. Et même cette manière, certainement ce qu'il inspire, de cette manière de poser les mains sur Manassé et Ephraïm. Manassé, c'est l'aîné, Ephraïm, c'est le deuxième, mais il est inverse. Là encore, ce passage de témoin, c'est important. Et donc même la main droite sur qui est posée, c'est parlant pour la bénédiction. Et même Joseph est mal à l'aise. Et Joseph dit, non, papa, tu te trompes. Et Jacob dit, non, je sais. Et certainement, il pense à lui-même. Lui, ce n'est pas un aîné. Lui, ce n'est pas le plus fort, ce n'est pas le plus réussi. Mais il a été béni. Il a reçu la grâce de Dieu. Et ce qu'il dit à ses fils, il dit, le Dieu qui m'a toujours conduit, le Dieu qui m'a délivré de tout mal, c'est ce Dieu-là que je vous lègue, ma foi en ce Dieu, je vous le donne. Ne comptez pas sur les richesses et les valeurs de ce monde pour vous apporter la bénédiction, pour réussir votre avenir. Comptez sur le Dieu qui va vous conduire, le Dieu qui fait grâce aux faibles, le Dieu qui fait grâce aux pécheurs, le Dieu qui délivre de tout mal. Voilà ce que Jacob peut dire appuyé sur ce bâton de pèlerin. Et si Hébreux, le livre d'Hébreux souligne ces détails, c'est comme il souligne le détail qu'Abraham vivait toujours sous des tentes. Et c'est pour montrer qu'Abraham, Isaac et Jacob, finalement, ils étaient des voyageurs et des pèlerins, des étrangers sur la terre, et que leur foi, ils comptaient sur des bénédictions à venir, et qu'ils savaient que leur destinée était dans les mains de Dieu pour l'éternité. Alors, pour peut-être ces trois bâtons, je peux vous inviter à imiter la foi de Jacob. La foi, c'est recevoir un jour le témoignage de l'Évangile que Dieu a préservé à travers les générations et vouloir faire partie de l'équipe de Jésus-Christ qui a déjà gagné. Et quand nous recevons ce témoin, nous pouvons le passer aux autres. C'est ça la foi. La foi, c'est reconnaître en Jésus le roi de sa vie, que c'est lui, à lui le sceptre, le trône et le règne. Quelque part, le cœur humain doit fléchir le genou devant ce Jésus, mais sachant qu'il est mort pour moi et qu'il est ressuscité et qu'il règne, je peux lui donner le bâton du souverain et pas vouloir le revendiquer pour moi-même. C'est ça la foi. Et enfin, la foi, c'est marcher fidèlement dans cette vie ici-bas, puisque notre espérance est à venir et nous savons que les promesses de Dieu sont vraies et nous pouvons marcher comme Jacob, en quelque sorte, avec ce bâton de pèlerin, rappelant que notre espérance n'est pas dans ce monde, les valeurs de ce monde, mais dans les bénédictions à venir.